Si je vous dis Gabi d'Alain Bachung, Le Loir-et-Cher de Michel Delpech, Déjeuner en paix de Stéphane Escher, Caravane de Raphaël, bon j'arrête. En tout cas, rien qu'avec ces titres, vous avez ces tubes en tête. Et ils ont tous un point commun, c'est un homme dont vous ne connaissez peut-être pas le nom puisqu'il a choisi de rester dans l'ombre. Il s'appelle Dominique Blanc-Francard. Il est ingénieur du son, producteur, et ce matin, Pop & Co le met en lumière. Suivre la carrière de Dominique Blanc-Francard, c'est entrer dans le twist des années 60, vivre les expériences de studio les plus folles des années 70, écouter différemment beaucoup des tubes des années 80 et mieux comprendre la musique d'aujourd'hui. Cet épisode de Pop & Co est donc le portrait d'un homme, autant qu'une histoire de chansons et de techniques d'enregistrement. Sa technique, à lui, est de tout faire à la maison. Et là, je vous parle de Florent Marchais. Un peu avant midi, on suit les pistes d'un de ses nouveaux morceaux. Il s'intitule « De justesse ». De justesse, ça ferait aussi un bon titre d'émission, mais bonjour, bienvenue, c'est Pop & Co.
France Inter, Rebecca Manzoni. Pop & Co.
C'est bizarre, hein? Les Beatles qui chantent en allemand. Je vous ne les fais pas écouter uniquement pour la curiosité de la chose, mais parce que cette version germanophone de She Loves You, devenue Sie liebt dich, fut enregistrée le 29 janvier 1964 dans l'endroit où va se dérouler cet épisode de Pop & Co. Les Beatles étaient donc là, dans un studio en sous-sol, au 10 rue de Washington, à deux pas des Champs-Élysées. Entre-temps, les lieux ont beaucoup changé. Le studio s'appelle désormais Labomatic, et depuis 2003, il est copiloté par Benedict Schmidt et Dominique Blanc-Francard. Le studio Labomatic est équipé d'un matériel dernier cri dont Dominique Blanc-Francard connaît tout, y compris l'intérieur des machines. Et ça a commencé comment ? Par la scène suivante. Un appareil diffuse une chanson, le gamin demande d'où vient la voix, et un adulte lui répond
« Il y a un petit bonhomme qui est dedans, à l'intérieur, on ne peut pas l'attraper, mais il est dans la machine et il chante quand on met le disque. »
On est au début des années 50, Dominique Blanc-Francard a 6-7 ans, et la voix qu'il a entendue sortait du gramophone d'un cousin.
On a passé 2 heures à le mettre en pièce, il restait plus rien dedans qu'un boîtier rond métallique. Et avec mon frère, on s'est dit, c'est pas possible qu'il soit là-dedans.
Le bonhomme.
Le petit bonhomme vert qui chante, il ne va pas être là-dedans. Et si, quand même, il reste que ça. Donc, avec un marteau et un tournevis, on a réussi à ouvrir le capot de ce petit boîtier métallique. Et là, on a eu une peur de notre vie, parce qu'il y a eu un bruit énorme. Il y a le ressort, c'était un truc mécanique, un ressort comme une horloge, quoi. Et sorti en faisant zouing, et elle rebondit dans toute la pièce. On a cru que c'était le petit bonhomme. C'était pas lui. Par contre, après, on s'est fait défoncer parce qu'on avait détruit ce pauvre gramophone. Et c'est la première fois qu'on s'est rendu compte que les adultes peuvent vous dire des grosses conneries, en fait.
Le père de Dominique Blanc-Francard est ingénieur du son dans une station qui devait être une chaîne de télévision au départ. Mais comme le général de Gaulle n'a pas autorisé les émetteurs qu'il fallait, la télé se transforme en radio. Elle émet à partir de 1954 et elle s'appelle comme ça.
Ici Europe numéro 1.
Here is Europa Nummer 1.
This is Europe number 1.
C'était la première radio privée moderne et qui, très rapidement, a eu des programmes pour les mômes, dont le fameux Salut les copains, qui était l'émission de Philippe Aki, où tous les disques qu'on aimait, qu'on adorait à l'époque, passaient en boucle. Et effectivement, ça a modifié considérablement notre culture musicale, parce qu'on découvrait des morceaux à la radio. Je crois que c'est vraiment le début de la période où le teenager, entre guillemets, commençait à être une vraie valeur commerciale.
Et voici le jeu de la chanson devinette. Gagner un disque grâce à SLC. Trouvez le titre et l'interprète de la chanson dont voici l'extrait. Envoyez votre réponse sur carte postale à... et indiquer le nombre de réponses exactes reçues.
Europe 1 bouscule la culture musicale des Français et joue un grand rôle dans l'industrie du disque en train de naître. Salut les copains ou SLC est un programme qui fait grimper les ventes des yéyés. En plus, l'un des présentateurs de l'émission, le Daniel Philippaki que vous venez d'entendre, est aussi le directeur artistique du label Deka. Pour Deka, Philippaki trouve un groupe qui doit concurrencer le twist des Chaussettes Noires et des Chats Sauvages. Ce groupe va s'appeler Les Pingouins. Et Dominique Blanc-Francard dit « Minot, tiens la guitare ». De mars 1963, tournage de l'émission télé avec tambours et trompettes, les quatre pingouins sont là et se présentent.
Gus, 18 ans.
Minot, 18 ans.
Chris, 20 ans.
Michel, 17 ans et demi.
Et tous les quatre forment les pingouins. Et pourquoi les pingouins ?
Parce que c'est un nom qui est plus doux que beaucoup de noms de groupes dans ce genre, qui sont en général très sauvages, je ne citerai pas de nom. Et puis surtout parce que nous avons rencontré le quatrième élément de la formation, Michel Santangeli, à Paris aux eaux devant la cage aux pingouins.
Ça ne va pas, on arrête, les pingouins se marrent. Or, la télé, c'est du sérieux, donc, deuxième prise, donc, rebelote.
Pingouin 5, troisième.
Gus, 18 ans.
Minot, 18 ans.
Chris, 20 ans.
Michel, 17 ans, lui.
Et tous les quatre forment les pingouins. Et pourquoi les pingouins ?
Non. Dominique Blanc-Francard, surnommé Minot, au sein des pingouins à l'époque.
Il y a eu énormément de groupes de rock des années 60 avec des noms d'animaux, en fait. Les vautours, les chacals, les chats sauvages. Je crois qu'il devait y avoir 10 nouveaux groupes par jour. C'est comme les débuts du rap, c'était mais hallucinant, quoi. En 6 mois, les leaders de la chanson de la vague précédente ont disparu. Tous les chanteurs que ma mère écoutait ou les chanteuses que ma mère écoutait entre 1957 et 58, à part Juliette Gréco qui s'en est sorti pas trop mal et Serge Gainsbourg qui était quand même un mec futé qui circulait sur toutes les vagues, on les entendait plus à la radio. On entendait plus que des chaussettes, des vautours, des chacals. Voilà. Et ça aussi, c'est une révolution. Et donc, aujourd'hui, quand j'entends des gens me dire « Ouais, mais quand même, c'est dur ce qu'on entend à la radio, c'est que des trucs machin, du rap. » Mais je dis, les mecs, moi je me souviens très bien, quand j'ai commencé à jouer de la musique, dans mon entourage, c'était la désolation. Mais comment tu peux faire un truc aussi idiot, nul, vous n'avez même pas de vocabulaire, vous chantez « yé, yé, yé », la guitare, il n'y a qu'un accord, enfin, c'est insupportable, faites autre chose, faites de la vraie musique. Donc, ça n'a pas vraiment changé.
Vous êtes en train de dire que les critiques à l'égard du rap aujourd'hui sont celles qui avaient à l'égard...
Oui, il y a toujours eu un moment donné où on a du mal à supporter que des galopins qui débutent fassent du bruit, en fait. Alors que le rôle d'un débutant de faire du bruit, c'est déjà énerver ses parents, donc énerver le monde qui est autour de lui, et essayer d'exister.
Je suis sorti avec Hélène, dans un café on s'est assis. Quand je lui ai dit que je l'aime, elle m'a dit qu'elle m'aimait aussi.
1962, les pingouins connaissent le succès avec cette chanson, « Oh les filles », adaptation du morceau américain « Sugary ». Donc, je récapitule, il y a Hélène plus un garçon, dans un café, ils sont assis, ils se disent qu'ils s'aiment, et puis...
Le lendemain, je lui téléphone, elle me dit que tout est fini.
La version originale a très peu à voir avec la version qu'on en avait faite, mais c'est une chanson qui était dure à chanter, et pour une fois, le texte était, par rapport à l'époque, plutôt pas mal fait, parce qu'il était chantable. Quand je dis chantable, c'est pas qu'il était plus ou moins intelligent ou cultivé, c'est qu'il était chantable, parce que quand il faut chanter haut, il y a des sons qu'on peut pas envoyer, on peut pas envoyer des U très forts. Léa, c'est tout de suite criard. Et « oh les filles, i, le i » sort très facilement. Et donc, c'est devenu vite un succès qui nous a dépassés, parce qu'on ne s'amusait pas du tout qu'on allait faire un succès. Mais c'est assez rigolo. C'était vraiment un bon moment.
Peu de temps après ce succès, Thierry Vincent, le chanteur des Pingouins, doit faire son service militaire. Avec la guerre d'Algérie, ça pouvait durer entre 18 et 30 mois. Au début des années 60, les Pingouins font donc partie de tous ces groupes mort-nés à cause de ça. Dominique Blanc-Francard ne gagne plus sa vie comme guitariste et se fait embaucher dans un studio d'enregistrement avec obligation de porter costume, cravate et cheveux courts. Il s'agit d'un studio de maquette. C'est-à-dire qu'à l'époque, comme on ne pouvait pas s'enregistrer chez soi, puisque le matériel pour ça n'existait pas, on se rendait dans un studio pour faire enregistrer sa voix, comme si on allait chez le photographe de quartier pour se faire tirer le portrait. Et par exemple, un jour, un mari est venu pour balancer des insultes au micro. Il prévoyait d'offrir l'enregistrement à sa femme.
Je pense que j'ai enregistré tout ce qui peut se faire sur Terre avec un micro. À savoir, des bandes son pour des patinages artistiques. J'ai même enregistré un disque de cours de langue en espéranto avec un gars qui me demandait de couper entre deux mots, je comprenais rien, personne n'a jamais parlé espéranto dans ma famille. C'était que des trucs mais complètement hallucinants. Et puis quand il y avait du temps, je pouvais expérimenter comment on fait un son de basse mieux en mettant ma guitare dans l'ampli. Mais il y a un truc qui n'existait pas dans les années 60, c'est quand on cherchait un mode d'emploi. Je dis n'importe quoi, mais quel est le meilleur moyen de mettre un micro devant une guitare? Il fallait trouver tout ça parce que personne ne voulait dévoiler ces secrets de fabrication, jusqu'un jour où j'avais été même à appeler un collègue d'un studio que je ne citerai pas, qui était hyper connu, un ingénieur du son hyper connu, parce que j'avais entendu un son incroyable sur un disque de Barbara qui s'appelait L'Aigle Noir, où il y avait un effet de son qui avait marqué son époque, et le gars il m'a insulté au téléphone en me disant d'aller me faire voir que jamais de la vie il allait me donner son truc pour que je lui pique son travail, quoi. Donc il fallait tout comprendre et trouver tout seul. Aujourd'hui, non seulement il n'y a plus de secrets cachés, mais dès qu'il y a un truc assez aventureux et ultra moderne, il y a quelqu'un qui l'explique tout de suite et fait un tuto pour montrer comment il faut faire. Parce que les gens ont compris que ça ne sert à rien de cacher un secret de fabrication, qu'il soit culinaire, qu'il soit technologique, qu'il soit pictural. Parce que de toute façon, les gens, quand on leur dit comment il faut faire, ils le feront différemment.
À partir de 1962 et pendant 10 ans, les techniques d'enregistrement de la musique font des bonds de géant. Pour prendre la mesure de ces changements, on pourrait dire qu'à ce moment-là, la production musicale a connu une révolution de la même ampleur que le cinéma, quand il est passé du muet au parlant. En gros, avant, un groupe venait en studio, on captait ce qui se passait comme si on assistait à un concert, et basta. À partir du début des années 60, chaque instrument est enregistré séparément. La guitare d'un côté, la batterie de l'autre, etc. Donc l'enjeu est de savoir comment on va mélanger tous ces ingrédients, quelle importance on va donner à chacun, et c'est la perspective de possibilités infinies. Cette révolution technique conduit à écrire les chansons différemment, et elle donne une place beaucoup plus importante au métier de Dominique Blanc-Francard, celui d'ingénieur du son.
Je vais donc vous livrer à Dominique Blanc-Francard, qui est le grand sorcier de ce lieu où les sonorités et les sons étranges sortent d'un peu partout.
Ce lieu étrange s'appelle le château d'Hérouville, situé dans le Val d'Oise, à une trentaine de kilomètres de Paris. Le compositeur et peintre Michel Magne a transformé le château en studio d'enregistrement et Dominique Blanc-Francard y arrive comme ingénieur du son. Au départ, il ne devait y rester que quelques heures pour dépanner et finalement, il y restera 3 ans. 3 années qui comptent triple, vu les nuits blanches et les expériences vécues à Hérouville. Dominique Blanc-Francard côtoie T-Rex, David Bowie, Elton John, tout ce monde, parce qu'un été, Michel Magne part en vacances à Saint-Paul-de-Vence.
Et à Saint-Paul-de-Vence, il rencontre Bill Wyman, le bassiste des Rolling Stones, qui était en train de visiter une galerie. Et Magne lui dit, ah bah, tu sais, moi j'ai un studio, là, puis ça démarre bien, puis c'est dans un château, là, quand on va. Et Bill Wyman dit, ah génial, je vais passer voir. Et donc Magne, tout content, rentre à Paris et me dit, hé Dominique, c'est génial, j'ai rencontré Bill Wyman et Rolling Stone vont venir, il va venir visiter. Je lui dis, mais attends, arrête, t'as trop bu, c'est pas possible, c'est le genre de truc, on entend ça toute l'année, des mythomanes qui racontent. Et 2 jours après, le gars, il vient. Il me dit bonjour, et donc j'avais en face de moi le bassiste des Rolling Stones, j'étais quand même super intimidé. Et il dit, mais c'est génial ici, c'est fabuleux, t'as du temps là, le mois prochain, je prends 2 semaines, je vais produire un groupe et je viens là. Et en général, les producteurs anglais venaient toujours avec leur ingénieur, leur équipe et tout. Et Magne lui dit, mais avec qui tu viens comme ingénieur? Et il me regarde, mais lui, il a l'air sympa, on va le faire avec lui. Et là, j'ai paniqué. Je me suis dit, ça y est, c'est le premier disque important que je vais faire avec Bill Wyman comme producteur. Un groupe que j'avais jamais entendu parler, mais qui jouait hyper fort. Et ça a duré deux semaines d'immersion. Où moi, parlant très mal anglais, je me suis retrouvé avec un groupe d'anglais qui parlait pas un mot de français, qui commençait à 9h du soir, qui finissait à 9h du matin. Et quand ça a été fini, c'était tellement violent comme changement de rythme, comme complexité et difficulté pour moi d'assumer tout ça, j'étais persuadé d'avoir fait le plus mauvais enregistrement de toute ma vie entière. Je voulais me cacher dans un trou de souris. Je me disais, quand il va écouter des bandes, il va rentrer chez lui, il va appeler Magne, enfin la parano totale, quoi. Et donc, pas de nouvelles. Une semaine après, Bill Wyman appelle Michel Magne. Il dit, écoute, c'est incroyable ce qu'on a enregistré chez toi. C'est d'un niveau, mais c'est fabuleux. Deux mois après, on appelle Elton John et tout le monde.
Dominique Blanc-Francard apprend les clés d'or de son métier au château d'Hérouville. D'autant qu'on y trouve deux choses qu'il n'y a nulle part ailleurs, une acoustique et un cadre exceptionnel. C'est l'un des premiers studios résidentiels au monde. Les artistes peuvent vivre là sans contrainte horaire, au milieu d'un parc avec piscine. Un jour de l'été 1973, des musiciens arrivent au château en bus, accompagnés par un directeur artistique qui s'appelle Thierry Vincent. Ces musiciens doivent jouer sur la chanson « Locomotive d'or » de Claude Nougaro.
Et c'était 14 percussions africaines avec des instruments diaboliques qui font un barouf, mais on peut pas rester à côté tellement c'est fort. Donc ils s'installent tous dans le studio, ils commencent à jouer. Ça sonnait pas du tout, c'était horrible. Il n'y avait pas assez de place pour le volume sonore qu'il y avait. Et on est en train de se dire qu'on n'allait pas pouvoir, on allait arrêter les enregistrements. Et c'était en été, il faisait beau. Et je dis à Thierry, on devrait essayer un autre truc. On va les mettre dans la cour, tous. On sort les micros, on met tout dehors, on les enregistre et avec l'écho des quatre murs de la cour, le son était absolument dingue. Et c'est encore une fois, c'est pas un problème technologique, c'est adapter l'instant, le moyen à l'instant. Et ça fait un enregistrement, mais d'un son incroyable, qu'on n'aurait jamais pu faire autrement.
Descendre dans la gare divine, dans la gare divine, le chef de gare est aimé, dans la gare divine, la locomotive d'or va souffler, comme un enfant s'endort, locomotive d'or. Comme un enfant s'endort, locomotive d'or.
Puis après, rencontrer Nougaro, c'était un mec fabuleux.
Vous avez enregistré la voix de Nougaro ?
Oui, l'enregistrement d'une voix de Nougaro était toujours un truc très particulier parce que... C'est impossible de prévoir dans quel état il sera quand il va chanter. Il pouvait être en pleine forme, il pouvait être complètement ivre. Le seul truc, c'est qu'il était toujours à fond dedans, et c'était rarement plus de 2-3 prises, quoi. L'album d'après qu'on a fait ensemble, qui s'appelait Récréation, il était arrivé ivre en sortant d'un resto. On attendait pour faire la voix, puis il est arrivé à 1h du matin, et il a dit, je me suis embrouillé avec les serveurs. C'était des pingouins habillés en papier glacé. J'ai éclaté de rire et on s'est tapé dans la main. Parce que du coup, il avait 4 heures de retard, mais c'était... Il avait trouvé la phrase qui nous a détendus, quoi.
Avec la comptabilité erratique de Michel Magne, le château d'Hérouville est en faillite. Et Magne doit passer la main à un autre gestionnaire. Dominique Blanc-Francard quitte ce lieu magique pour devenir ingénieur du son indépendant. À partir de là, il va bosser dans tous les grands studios que compte Paris pour travailler sur les disques de Julien Clerc, Jacques Higelin ou Chantal Goya. Comme vous pouvez le constater, ça, c'est pas Chantal Goya. En 1977, au studio L'Aquarium, c'est donc Michel Delpech que Dominique Blanc-Francard a face à lui.
Moi j'adorais Delpech, c'est un mec à qui je m'entendais super bien, parce que c'est un gars qui a une voix absolument magique. Et Delpech rentrant dans un studio et disant « Bonjour les gars !» déjà quand il parlait, on savait qu'il allait chanter, se mettant derrière le micro et chantant jamais plus trois fois une chanson, et disant, bah c'est bon là, elle est bien.
Sauf qu'un jour, tout est parti en sucette.
Il me disait, bah, y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas. Donc cette fameuse chanson, Le Loir-et-Cher, est la rescapée d'un album entier qui est parti à la poubelle quand même. Un album entier enregistré en Angleterre où, jour après jour, il disait, les gars, j'arrive pas. Mais qu'est-ce qui va pas, Michel? Je comprends pas, j'arrive pas, peut-être il manque des trucs, mais je peux pas chanter là-dessus, ça va pas. Est-ce qu'on pourrait mettre une guitare? Ben peut-être, il manque une guitare, peut-être c'est vous qui savez, moi je sais pas. Donc il y avait un défilé de guitaristes qui passait dans la journée, à la fin de la journée, il restait de chanter, non, c'est pas une guitare, ça va pas. Et donc comme ça, au bout d'un mois, tout est passé à la poubelle, sauf le Loir-et-Cher qui restait la dernière chanson utilisable. Et là, pour la chanter, tout allait bien, sauf arrivé au moment du refrain, où il y a cette note aiguë, on dirait ça gêne, marche, et dans la boue. Mais le plus étonnant, c'est que cette note, elle était déjà dans l'autre partie de la chanson, et ça sortait très bien. Et il s'est mis à bloquer là-dessus, impossible de sortir cette note. Jusqu'à un moment donné, où il finit par être obligé de faire un arrêt de 3 semaines en cure de sommeil, parce qu'il était en plus un peu cramé nerveusement. Et après sa cure de sommeil, il arrive, tout souriant, ça va les gars? Oui, ça va, oh, bah, je suis en pleine forme et tout, bah, si on voit la bande, une prise.
Ils me disent, tu vis sans jamais voir un cheval à hibou. Ils me disent, tu ne viens plus, même pour pêcher un poisson. Tu ne penses plus à nous. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue.
Dans l'art de chanter, à un moment donné, c'est soit une exaltation extrême, parce que les artistes sont fous. On ne peut pas faire ce métier si on n'est pas fou. Donc cette folie, elle s'exprime soit par une exaltation soudaine positive, soit une exaltation soudaine négative, mais il faut qu'il y ait une exaltation. Ça veut dire, mon Dieu, mais j'ai jamais été aussi mal de ma vie, je voudrais me jeter dans la scène de main, allez, vite, je fais la chanson. Parce que... Et c'est la meilleure prise du monde, parce qu'elle est chargée d'une émotion négative, mais néanmoins hyper violente. Mais le rien, je crois que c'est le pire pour tout artiste qui se rend compte qu'il peut ni être, ni sourire, ni pleurer. Il est juste entre eux, il n'y a rien qui sort et ça le rend fou.
Enregistrer les artistes, c'est être vachement psy en fait.
Il faut trouver quel est l'axe par lequel communiquer derrière la vitre pour générer cet instant où l'artiste abandonne sa pensée et chante.
Être détendu. Garder la spontanéité d'un moment, c'est ce que Bénédicte Schmitt et Dominique Blanc-Francard, dit DBF, ont réussi pour le dernier album dont ils ont dirigé l'enregistrement. Le titre du disque, c'est « It's still a teenager's dream », c'est encore un rêve d'adolescent. DBF a choisi les interprètes et les chansons qu'il aime. Voici donc « Otis Cœur », et une mélodie qu'on connaît tous.
Je marche seule le long des rues où nous allions tous deux avant. À chaque pas, je me souviens comment on s'aimait auparavant. Comment pouvoir la vie de ma vie.
France Inter.
Je ne te guérirai pas pour une autre.
Rebecca Manzoni.
Tu restes la vie de ma vie.
Pop & Co.
Ce matin, Pop & Co est dédié à un homme dont vous avez entendu le travail sans le savoir. C'est Dominique Blanc-Francard, ingénieur du son, dont le nom est associé à presque tous les tubes des années 80.
Bonsoir.
18 janvier 1982, antenne de rencontre de l'apparition de nouveaux médias dans son JT de 20h.
Les radios libres, on en a beaucoup parlé depuis le 10 mai dernier et même avant. Elles ont depuis poussé comme des champignons un peu partout en France. Jean-Louis Saporito a mené son enquête. Mais pour commencer ce soir, il explique comment on peut créer une radio et combien cela coûte.
Liberté sur les ondes, c'est une espérance de l'après 10 mai. Radio Riposte, Radio Fil Bleu, Lorraine Cœur d'Acier, Radio Ivre, pourchassées en d'autres temps, ont suscité de nombreuses vocations. En cette fin de printemps, début d'été 81, les radios fleurissent. Pour cela, il suffit de pousser la porte d'un spécialiste.
C'est très simple, il suffit de venir ici et on prend par exemple un exciteur qui coûte 10 400 francs. On prend ensuite un amplificateur, par exemple 100 watts, 9 290 francs. On ajoute dans la recette une antenne et un pylône qui doit être de 9 mètres minimum. Lorsqu'on a tout ça, eh bien, il ne reste plus qu'à parler.
Qu'est-ce que l'arrivée des radios qu'on appelle libres a changé dans la production musicale? Ai-je demandé à Dominique Blanc-Francard.
La première chose qu'elles ont changé, c'est du fait d'être présentes face à un paysage musical radiophonique où il y avait trois radios, donc on n'a qu'à dire France Inter, RTL et Europe 1, nous, artistes ou nous producteurs, on était confrontés à trois personnes qui disaient « j'aime pas ce disque », qui ne le passaient pas, et le disque disparaissait dans les oubliettes, car s'il n'était pas entendu par les auditeurs, la maison disque l'abandonnait instantanément. Et là, on se trouve à un paysage où, d'un seul coup, il n'y a pas une radio de plus, mais 5, mais 10, mais 15, et qui sont sur un nouveau format, avec un son bien meilleur que le format des radios anciennes. Et là, d'un seul coup, les gens les écoutent, ces chaînes de radio libres. Et par la même occasion, les labels se disent « Ah ben alors, les radios FM libres, elles sont capables aussi de promouvoir des morceaux de musique et d'artistes dont on pensait que ça ne pouvait pas passer parce que ça n'aurait pas plu ni à RTL, ni à Europe 1, ni à France Inter. » Et donc, du coup, ça a généré une nouvelle créativité, une nouvelle ribambelle d'artistes débutants qui n'existaient pas, une nouvelle musique.
Parmi les chansons qui ont littéralement éclos sur les radios libres, il y a « Chacun fait ce qui lui plaît » de Chagrin d'amour, « J'aime regarder les filles » de Patrick Coutin, ou encore ceci.
Oh Gabi, Gabi, tu devrais pas me laisser la nuit, je peux pas dormir, je fais que des conneries. Oh Gabi, Gabi, tu veux que je te chante la mer?
Gabi de Bachung, ils ne voulaient pas le passer en fait, les radios ne voulaient pas. Et c'est les FM qui ont démarré le truc, et après tout le monde l'a revendiqué en disant « Ouais, mais non, t'es le premier à le passer ». Mais non, pas du tout, c'était assez long à décoller, parce qu'à l'époque, malgré tout, les FM avaient un marché de niche, ils ne couvraient pas toute la France.
Vous étiez là à l'enregistrement?
Oui, mais Alain ne chantait pas, on avait fait juste la musique. Il chantait, genre un truc, il n'y avait pas de parole encore sur la chanson, il chantait juste la mélodie pour guider les musiciens. Et Boris Bergman arrive avec les paroles. Et donc, Alain Bachung regarde, éclate de rire et lui dit, t'es complètement fou. Ben, c'est génial ton texte, mais c'est complètement fou. Et Bergman dit, vas-y, chante là, on verra après, quoi. Et moi, je ne connaissais pas non plus, je n'avais pas lu le texte. Donc, il va dans le studio, il se met dans le micro, il commence à chanter ça.
Gabi, je t'ai déjà dit que t'es bien plus belle que Morissette, que belle comme un pétard qui attend plus qu'une allumette, ça fait craquer. Au feu, les pompiers. Aujourd'hui, c'est vendredi, et je voudrais bien quand même. Chant que je vais encore finir chez Vanda et ses sirènes et ses sirènes. Oh, 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 oh.
Il fait deux prises du truc, et à la deuxième prise, je dis aux deux qui venaient écouter, donc à Bergman et à Bachung, mais les mecs, vous êtes tarés, quoi, c'est un énorme tube, quoi, ce truc-là. Ils éclatent de rire en disant, ah, putain, si ça passe à la radio, ah, je vais bien être pendu. C'est impossible, parce que c'était quand même que des jeux de mots bizarres et tout. C'était un nouveau style de texte, quoi. Et lui avait apprivoisé le texte de Bergman d'une manière assez folle, parce que d'un seul coup, il jouait un rôle avec le texte. Et jamais il avait fait ça avant, et c'était super brillant.
1984, le Top 50 est créé. À ce moment-là, Dominique Blanc-Francard, dit DBF, a la réputation d'être l'ingénieur du son français dont le travail garantit le succès d'une chanson. On fait appel à lui comme si on contactait Merlin l'Enchanteur. Parce qu'il est l'un des rares à maîtriser les nouvelles exigences sonores imposées par la bande FM. Pendant toute la décennie 80, DBF détient donc les clés du mixage. Cet art qui consiste à trouver le bon équilibre, le juste dosage entre les différents éléments d'une chanson pour qu'elle soit lisible, audible à la radio. Donc, le mixage de Tomber pour la France d'Étienne Daho, c'est Dominique Blanc-Francard. Le mixage de Voyage Voyage de Désir Less, c'est lui aussi. Le mixage de En Rouge et Noir de Jeanne Masse, encore lui. Quelle heure est-il sur France Inter ?
C'est une minute d'avance, c'est pas très français là.
Vous voulez que je vous rappelle dans une minute ?
Non, là, elle est passée, la nuit.
C'est pas assez suisse, en fait.
je suis prêt.
Voici Stéphane Escher, dans Pop & Co. Dominique Blanc-Francard a procédé au mixage des chansons de Stéphane Escher à partir de 1987. 3 ans plus tard, en 1990, donc, Stéphane Escher lui propose autre chose, réaliser son nouvel album. Le mettre en son, comme on dirait d'une pièce de théâtre qu'on la met en scène. Et ça ne va pas se passer à Paris, mais à Engelberg, un village suisse à 1000 mètres d'altitude. Un endroit auquel on accède par un train à crémaillère. L'enregistrement du disque va se dérouler dans un lieu pas fait pour, le Kursaal, un ancien casino qui fait aussi salle de bal. La mission de Dominique Blanc-Francard est donc de créer un studio d'enregistrement là. Et Stéphane Escher définit DBF comme ceci.
Un mec qui arrive pour régler des problèmes calmement. Très vite, j'ai dit, j'aime pas les microphones professionnels, parce que j'ai chanté beaucoup sur scène tout le temps, et j'ai eu mon microphone bon marché de scène, que je savais comment il fonctionne, quelle distance, comment je peux ajouter de la présence, c'est mon outil. Et je suis sûr, c'est un des rares producteurs qui a dit, Stéphane, chante dans ce micro, pour côté technique, je m'occupe après. Tout ça sans Dominique, j'ai peur que ma carrière aurait arrêté très vite. Que je serais dit, foutez-moi la paix, ça m'intéresse pas. Votre recherche de qualité de son avant de la qualité de l'émotionnel, voilà.
Si vous n'aviez pas travaillé avec lui à ce moment-là, votre carrière se serait arrêtée?
Peut-être pas arrêtée, mais peut-être elle serait retournée vers l'Allemagne où j'ai commencé, où j'ai eu une image de chanteur électro, underground, brûlé vif, comme ça, je crois que j'aurais... Ouais, la France serait devenue un... peut-être pas cet endroit où j'ai passé le plus de ma vie après.
Pour enregistrer l'album, Dominique Blanc-Francard propose à Stéphane Escher de renoncer au tout électronique et de faire appel à des musiciens, les meilleurs. Manu Katché à la batterie et Pino Palladino à la basse.
Vu que c'est des musiciens qui coûtent une fortune, il fallait aller très vite. Et donc, comme il fallait aller très vite, il ne fallait pas beaucoup penser. Et donc, du coup, c'est un album génial parce que Stéphane était obligé de tracer. Au début, il était perdu parce qu'il fallait aller tellement vite. C'était presque comme des concerts, en fait. Et on s'est rendu compte qu'on ne pouvait rien refaire. Que dès qu'on rajoutait des choses sur ces enregistrements, on perdait le côté spontané, instantané qu'il y avait. Et du coup, on a gardé le concept du son du Kursaal, en fait. C'était génial, c'est une expérience inouïe.
Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin n'est ni rose ni honnête pour la peine. Est-ce que tout va si mal? Est-ce que rien ne va bien? L'homme est un animal, me dit-elle. Elle prend son café en riant, elle me regarde à peine.
Je venais du punk rock, mais j'étais si heureux d'être si proche vers des gens qui parlaient ce langage de musiciens professionnels, qui sont des génies dans leur domaine. Et tout à coup, on a ces gens qui peuvent freiner une chanson sans que le remarque, qui peut ajouter une lumière vers la fin, qui peut retenir les choses pour les laisser galoper au refrain, par le déjeuner en paix. C'est pas moi, ça, c'est Dominique et ses musiciens qui m'ont amené avec ce calme et cette confiance que j'ai tout de suite donné à toute cette équipe. Instinctivement, hein, c'est une réaction animale un peu.
Vous insistez sur le côté calme. C'est important qu'une personne à ce poste soit calme dans un projet comme ça, où il faut prendre un train à crémaillère pour accéder au studio, monter le matériel par camion.
Oui, spécialement si vous êtes avec le contrepoint du calme, Stéphane Escher, qui est plutôt dans tous les sens, il a trop d'idées en même temps, il veut essayer jusqu'il tombe, il n'a pas peur de prendre un détour énorme pour se retrouver perdu dans la forêt, parce qu'il pense que c'est ça la créativité aussi. Et moi, avec une autre boule d'énergie, ça aurait explosé. C'est comme une batterie, quoi, il faut les deux pôles. En plus, il y a un énorme sens d'humour. Je rigole rarement pendant du travail, puis avec toi, oui. Oui.
Depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, Dominique Blanc-Francard poursuit son travail de producteur et d'ingénieur du son. On lit son nom sur les disques de Benjamin Biolay, de Sinclair, de Raphaël. En 2004, une jeune femme franchit les portes du studio Labomatique pour lui faire écouter les maquettes de son nouvel album. Cette jeune femme s'appelle Camille.
Elle vient faire écouter le truc avec un CD. Elle s'assied à côté de moi, je mets le CD dans le lecteur, je fais play. J'entends ce truc qui démarre. J'entends le premier morceau, le deuxième, le troisième, et en fin de compte, ça a duré 40 minutes. Pendant 40 minutes, j'ai écouté ce truc sans décrocher un instant. Je fais stop, je dis, mais c'est dingue, je viens d'écouter 40 minutes de musique, ça ne m'est pas arrivé depuis des années d'être coupé du monde en écoutant 40 musiques d'affilée d'un coup. C'est quoi? C'est un opéra, c'est un immense. Et il me dit, non, c'est des chansons réunies par un son qui ne s'arrête jamais. Il y a toujours cette note dans toutes les chansons. Et puis les chansons étaient aventureuses, c'était des trucs avec des beatbox, des trucs...
C'est-à-dire des rythmes faits avec la bouche.
Oui, des rythmes faits avec la bouche, des sons complètement bizarres. Et en fin de compte, elle avait enregistré cet album avec son réalisateur dans la maison du gars, la machine à laver qui tournait à côté. Qui avait... Et en fin de compte, ça donnait un truc incroyable. C'est des sons qui sont moches, des sons qui sont crado, mais c'est pas grave, c'est tellement original. Et donc on a juste... fait plein de petits rajouts ici au studio, mais des rajouts particuliers, parce qu'en fin de compte, pour que ça marche, les choses qu'on rajoutait, il fallait qu'ils soient aussi sales que les choses qu'on gardait. Et c'était une expérience inouïe, c'était un truc que j'avais jamais fait, et qui m'a ouvert les yeux aussi sur arriver à transformer une démo,
une maquette,
en définitive, parce qu'on ne peut pas refaire l'émotion qu'il y a dans une maquette. C'est novateur, mais... incontrôlé. Et les choses incontrôlées ont souvent un charme fou.
Qu'est-ce que veut cette connasse, le beurre ou l'argent du beurre, vive ou que tu meurs. Faut que grève de bonheur ou qu'il change de godasse, ou croule sous les fleurs, change de couleur, je vais prendre ta douleur. Je vais jouer au docteur. Tu as mal à où t'as peur, tu n'as pas mal à où je chante.
It's a Teenager Dream, itinéraire d'un ingénieur du son. C'est le titre de l'autobiographie de Dominique Blanc-Francard, co-écrite avec Olivier Schmitt et publiée par les éditions Le Mot et le Reste. It's Still a Teenager's Dream, c'est le titre d'un disque cette fois. Soit 6 chansons choisies par Dominique Blanc-Francard parce qu'elles ont compté dans sa vie. On trouve donc Sinatra, Les Ronettes, Burt Bacharach, repris par des artistes d'aujourd'hui. Demain, Dominique Blanc-Francard sera à Saint-Malo au festival Étonnons Voyageurs pour 2 conférences. À 11h, il parlera de son expérience au château d'Hérouville et à 20h45, il sera question de musique soul avec son frère Patrice Blanc-Francard.
France Inter, Pop & Co, Rebecca Manzoni.
La suite de Pop & Co s'est soulevé le capot d'un morceau signé Florent Marchais. Mais avant, le dit Florent Marchais vous fait écouter un ou une collègue. Et pour ce matin, il a choisi Stéphane Escher. Sans savoir qu'on entendrait la voix d'Escher un peu plus tôt dans l'émission, il y a juste des hasards qui tombent bien. Florent Marchais vous présente donc Autour de ton cou, nouvelle chanson de Stéphane Escher.
Je suis fasciné par les textes qui ont une double lecture, puisque sur ce texte, Autour de ton cou, ça peut traiter aussi bien des violences conjugales que le fait d'asphyxier dans le monde actuel tel qu'il est. Parce qu'il dit, c'est pas moi qui serre autour de ton cou, c'est dans l'atmosphère, c'est bien fait pour nous. Ça pourrait aussi résumer le climat anxiogène qu'on a traversé et qu'on traverse depuis quelques années. Et sa voix, elle a jamais été aussi sensible et déchirante que sur ce morceau-là, et donc voilà, je choisis cette chanson-là.
Quatre nouvelles chansons de Stéphane Escher ont paru au printemps, parmi elles, il y a donc Autour de ton cou, dont le texte est signé Philippe Dian.
C'est pas moi qui serre autour de ton cou, c'est dans l'atmosphère, c'est bien fait. Si nous manquons d'air, si nous devenons fous, jetons-nous des pierres, éclaboussons-nous. C'est pas moi qui serre autour de ton cou, c'est comme une vipère qui sort de son trou. Trop de laisser-faire, trop de laisser-nous. Qui serre autour de ton cou, tu la voulais fière, tu l'as mise à genoux. Trop de somnifères, trop des ventres mous. C'est pas moi qui serre autour de ton cou, c'est pas moi qui serre autour de ton cou. C'est comme une vipère qui sort de son trou, c'est l'une de ses galères. C'est tous ces écrous, c'est pas moi qui sers autour de ton cou.
On a tous fait des conneries. Il y a celles dont on rit, celles dont on a honte, et certaines dont on serait même presque fier. Florent Marchais, lui, a écrit sur celles qui auraient pu coûter très cher, comme, je cite, « sauter d'un grand rocher et s'en sortir indemne ». Florent Marchais chante donc les risques qu'il a pris, plus ou moins bêtement, et la trouille de voir ses enfants faire pareil. Comme thème de chanson, ça n'est pas si courant. Florent Marchais publie des albums depuis 2004. Il parle de lui et on s'y reconnaît très souvent. Les conneries, donc, le temps qui file trop vite, ou encore avoir des enfants. Il y a tout ça dans sa chanson intitulée « De justesse » et dont on va suivre les pistes jusqu'à midi.
Je sais que j'avais envie d'écrire une chanson sur la paternité, sur mes enfants, mais pas que, sur cette façon de célébrer la chance d'être en vie, parce que j'estime qu'on est tous des miraculés, en fait. Certains plus que d'autres, dont je fais partie. Moi, pendant très longtemps, j'ai pensé que j'étais non pas immortel, mais pour moi, ça ne me concernait pas, en fait. J'avais l'impression d'être résistant. La dernière fois que j'ai fait
quelque chose de totalement inconscient. Mes enfants étaient déjà nés, en fait. C'est pour ça que je dis sauter du grand rocher sans sortir indemne. Je parle de mes enfants, mais qui m'ont vu faire une énorme connerie, puisque je peux vraiment être con. Et j'étais avec des amis dans une calanque près de Marseille, et un ami qui avait vraiment l'habitude depuis des années de sauter tout en haut d'une calanque, ça faisait un truc qui faisait plus de 15 mètres, me dit « Oh, je le fais souvent, c'est facile, etc. » Moi, j'ai jamais fait ça. Et puis je me dis « Bah, pourquoi pas ?» Et je l'ai fait, je venais d'avoir 40 ans. J'ai eu beaucoup de chance parce que je m'en suis tiré avec un énorme bleu sur les fesses et pendant une semaine. Mais je me dis, voilà, à quelques, une inclinaison près, en fait, du corps, ça aurait pu être assez grave. Et c'était la dernière fois. J'ai eu une prise de conscience à ce moment-là. Et je pense que quand j'ai écrit la chanson, je voulais aussi parler de ça, mesurer, en fait, sa chance. Ça tient à pas grand chose. C'est vraiment de justesse à chaque fois. Le fait d'être en vie, le fait d'avoir ses enfants près de soi. Enfin, c'est quelque chose qu'il faut chérir. Finalement, c'est une chanson assez positive. Mais c'était la première fois que j'écrivais sur la paternité et la première fois que peut-être que je me livrais de manière aussi frontale.
De justesse, de Florent Marchais dans Pop & Co.
Un noyau de cerise, 4 ans la chaise haute et les doigts dans la prise, juste avant qu'on les ôte. De justesse. 12 ans, vif écorché, la rivière, les Cévennes, sauter du grand rocher et s'en sortir indemne. De justesse. Promets-moi, mon amour, de passer ton tour. Promets-moi, mon enfant, de rester vivant. Soirée du lycée, à faire plus que son âge, le pantalon baissé, fais-le ou tu dégages, en vitesse. Ne plus rien avaler, et peser sans mal-être, on allait se jeter, mais on ferme la fenêtre, de justesse. Promets-moi, mon amour, passer ton tour. Promets-moi, mon enfant, de rester vivant. J'y pense tout le temps. J'y pense tout le temps.
Cette chanson figure sur Garden Party, le nouvel album que Florent Marchais publie la semaine prochaine.
Tout l'album a été composé au piano. C'est venu très très vite, les 3-4 premières phrases avec le piano, ça a été assez immédiat. Et dans ces cas-là, on sait qu'on tient quelque chose de très intime qui nous ressemble. Et c'est pour ça qu'on a envie d'aller jusqu'au bout. Cette chanson-là, dès le début, j'ai su qu'elle serait importante pour moi.
Florent Marchais a déjà écrit des partitions pour orchestre, mais la star de cette chanson et de son nouvel album, c'est le ou plutôt les pianos donc. Dont celui-ci qui aurait l'air de sonner comme une guitare.
Je parle beaucoup d'adolescence dans ce morceau et je voulais qu'il y ait cette fougue, quelque chose qui soit non pas conquérant, mais qui emporte quelque chose à la double croche comme ça, qui court très très vite. Tac, 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 tac. J'avais pas envie que ce soit fait par une batterie. Je voulais un petit peu détourner les instruments et j'ai forcé l'imperfection. Quand un instrument sonnait trop bien, ben j'essayais de faire en sorte qu'il sonne moins bien ou en tout cas d'avoir une singularité à travers ce son-là. Que ce soit par exemple les percussions, elles ont quasiment toutes été enregistrées à l'intérieur du piano. J'ai repéré un endroit sur le piano où, avec ce qu'on appelle une maillotche, c'est une baguette avec une espèce de...
Une grosse boule en feutre.
Une grosse boule en feutre, exactement. Et j'ai remarqué qu'il y avait un endroit sur le piano où ça sonnait comme une grosse caisse de batterie. J'utilise plein de choses. Je suis même allé chercher des sextoys pour faire vibrer les cordes différemment.
Dans ce morceau de Florent Marchais intitulé « De justesse », Les cuivres sont assurés par des cuivres.
Je ne sais pas pourquoi je suis aussi attaché au cuivre, je me retiens pour ne pas en mettre tout le temps. Je pense que ça a été vachement lié à l'enfance, avec les commémorations. Et c'est vrai que dans...
Les fanfares à l'occasion de commémorations ?
Oui, voilà. Dans mon village, il y avait toujours la fanfare. Et puis comme c'était jamais totalement juste, ni totalement faux, un peu comme la musique tzigane, quand il y avait un peu ce truc-là, je trouve que c'est les ensembles de cuivre, même lorsque c'est festif, il y a quand même un peu de mélancolie. Ça ressemble bien à la vie, c'est bien une définition de la vie, d'avoir des moments extrêmement réjouissants avec des drames, tout est mélangé, et on passe de l'un à l'autre, on passe du rire aux larmes constamment.
On écoute la voix ?
Ouais.
Morito, glace pilée, la bagnole qui va vite, ne rien faire à moitié et fêter ses 18 de justesse.
Je suis pas un grand chanteur, j'ai pas un organe de dingue, mais j'essaye d'être dans l'abandon. Mais du coup, je pense que à travers ça, il y a une vérité quand même.
C'est la nuit, c'est l'été, dans le ciel bleu pétrole, les platanes argentés. Parfois, on a du bol dans l'ivresse.
Moi, j'ai renoncé à être à faire des mélodies trop complexes pour ma voix. Donc j'ai adapté aussi mes mélodies en fonction de ma voix pour justement ne pas trahir le texte. Et d'ailleurs, je construis toujours mes arrangements en fonction de ma voix. Pas parce que je suis en train de dire « Oh là là, ma voix est magnifique », non, mais parce que qu'est-ce qu'on écoute dans une chanson ? On écoute une voix, un texte, et on est happé en premier par ça. Donc il faut lui faire un écrin, il faut lui laisser le plus de place possible. Et plus on est un chanteur, j'allais dire, moyen, plus on doit prêter attention à ça. C'est-à-dire, attention, on ne va pas commencer à mettre un élément qui va entrer en compétition, on va dire, avec la voix. Mais quand on l'écoute toute seule, on se dit qu'on a bien fait de la billet, quand même.
Morito, glace pilée, la bagnole qui va vite, ne rien faire à moitié et fêter ses 18 de justesse. C'est la nuit, c'est l'été. Dans le ciel bleu pétrole, les platanes argentés. Parfois on a du bol dans l'ivresse. Promets-moi mon amour de passer ton tour. Promets-moi mon enfant de rester vivant. Promets-moi mon amour. C'est ton tour. Promets-moi, mon enfant, de rester vivant, de rester vivant. J'y pense tout le temps. J'y pense tout le temps.
Garden Party, c'est le titre du nouvel album de Florent Marchais. Le disque sera disponible à partir de vendredi prochain. Florent Marchais sera en concert au Fnac Live à Paris le 30 juin, au Francofolie de La Rochelle le 17 juillet. Beaucoup d'autres dates sont programmées, dont La Cigale à Paris le 2 février 2023. Koy Nguyen a réalisé cette émission avec Mathias Aléon ce matin, Ilinka Negulesco et Margot Couillard ont préparé Pop & Co. Et JB Audibert aiguille la programmation musicale. La semaine prochaine, Pop & Co sera Elton John avec un Pop & Co sans son comme Véronique sans son. À samedi!